18h29 dans Forum, place à notre grand débat. Thibaut Chaler avec cette question. Thibaut, l'adoption internationale, une usine à fantasmes?
En tout cas, c'est une personne adoptée qui l'affirme, un des 5 témoins que la réalisatrice Amandine Gay a rencontré. De leurs histoires est né un film, une histoire à soi. Mathieu est né au Brésil, abandonné par sa mère, adopté en France à l'âge d'un an. Écoutez cet extrait.
Il y a un déracinement, premier. Avant même, il y a quand même un abandon de la mère biologique, il y a un déracinement culturel. Et puis, il y a un enracinement un peu forcé dans une culture qui n'est pas forcément la nôtre, qui n'est pas la nôtre, en fait. Et pour moi, je pense que ça peut être... à titre personnel, je pense que l'adoption internationale, ça peut être nuisible, en fait. Et je suis plus pour que les pays développent l'adoption en interne, en fait, pour limiter au maximum le déracinement, que l'enfant puisse au moins avoir à se rattacher à sa culture.
Et bonsoir Amandine Gay.
Bonsoir.
C'est un extrait de votre film qu'on entend, Une histoire à soi. Vous avez voulu montrer avec ce film la face cachée, la face sombre de l'adoption internationale.
Alors c'est vrai que moi, le centre de mon travail créatif, c'est plutôt de donner la parole aux groupes qu'on entend le moins sur un sujet donné. Et c'est vrai que dans le cadre de l'adoption, pendant très longtemps, les deux groupes qu'on a le moins entendus, c'était les premières familles, donc les familles de naissance, et puis les personnes adoptées, en particulier adultes. Donc c'est vrai que moi, je milite beaucoup pour la réappropriation de la narration, pour qu'on puisse reprendre du pouvoir sur sa vie. Et c'est vrai que pour les personnes adoptées, ça passe aussi par la possibilité de raconter nos histoires.
Chaque parcours, chaque histoire est évidemment particulière, différente. Vous-même, vous avez été adoptée. Quel point commun il y a dans tous ces récits ?
Alors je dirais qu'il y a de nombreux points communs. C'est vrai que dans le fil de la narration qu'on trace dans le film, on aborde plusieurs enjeux. Là, on a entendu parler par exemple du déracinement, la question du déracinement. Il peut aussi y avoir la question du racisme, mais qui se pose pas pareil pour tout le monde. C'est vrai que dans Une histoire à soi, il y a par exemple une des participantes qui est blanche, donc c'est pas son expérience. Il y a effectivement la question de la vie d'avant. Et ça, je pense que ça traverse le parcours d'à peu près tous les adoptés, surtout quand il y a de l'opacité, voire même parfois des mensonges, concernant la vie d'avant. Et donc le niveau d'information qu'on a, la facilité qu'on a à avoir accès à ces informations va aussi beaucoup déterminer notre rapport à nos pays de départ si on n'est pas né dans le pays dans lequel on est adopté, ou à nos communautés aussi d'origine quand on n'appartient pas à la communauté du pays dans lequel on grandit.
Il y a une image un peu idyllique de l'adoption internationale que vous cherchez à casser peut-être ?
Oui, c'est sûr que dans le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup la parole en tant que personne adoptée, on a eu un discours autour de l'adoption qui était un discours qui était très dépolitisé. C'était beaucoup le discours autour de l'amour, de l'émotion, parfois même un discours teinté d'un héritage catholique avec la question de la gratitude, qu'on avait voire même sauvé des enfants. Il y a eu un discours humanitaire très puissant qui s'est développé autour de l'adoption. Et moi, ce que je voulais montrer, et j'espère qu'on arrive aussi à voir effectivement dans le film, par exemple au travers des archives historique, dans ce cas-là, du discours aussi un peu médiatique, grand public autour de l'adoption, c'est comment finalement il y a des enjeux très politiques de qui a accès aux enfants de qui, par exemple. Dans le film, on a une archive italienne des années de 59, où on voit que les Américains, à cette époque-là, adoptent encore en Italie. Et pour moi, c'était important de poser la question, qui est le sud de qui ? Qui a accès aux enfants de qui ? Dans quelles conditions économiques, géopolitiques, etc. Et ça, je pense que oui, c'est un discours qui a beaucoup manqué dans le monde de l'adoption.
Il y a un aspect colonialiste même, vous allez jusque-là, dans l'adoption.
Écoutez, ça dépend des pays, mais moi effectivement je suis en France, je pense qu'on peut pas considérer l'adoption d'enfants haïtiens, vietnamiens, algériens, en la pensant de façon décorrélée avec l'histoire de France. Si on a pu extraire très facilement des enfants du Vietnam à la fin de la guerre du Vietnam, c'est parce qu'il y avait déjà des orphelinats gérés par des religieuses françaises, et donc oui, c'est en lien avec l'histoire de la colonisation française. Oui, dépendamment d'où vous êtes adopté, c'est très prégnant. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple pour ma génération? Moi, je suis née sous X en France et on est beaucoup à avoir un ou deux de nos parents qui sont des Maghrébins. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant qui est d'origine algérienne de grandir dans une famille où son grand-père a fait la guerre d'Algérie pour la France ? Bien sûr que ça va avoir un impact dans sa vie aussi.
Alors il y a un déracinement, un enracinement forcé, dit Mathieu dans l'extrait qu'on a diffusé à l'instant. Ces histoires, elles se passent forcément mal, Amandine Gay ?
Bah écoutez, nous on a vraiment fait le choix dans le film. Alors c'était aussi un choix un peu forcé puisque un film d'archives ça nécessite que toutes les personnes qui apparaissent à l'écran signent. Mmh. Donc ça voulait dire qu'on pouvait pas avoir des participantes dans le film qui étaient en rupture familiale totale, sinon on pouvait pas faire le film. Mais pour nous c'était beaucoup plus puissant de montrer justement que dans des familles où il y avait beaucoup d'amour et de bienveillance, il y avait quand même des crises. Parce que justement les crises elles sont aussi d'ordre politique. Hein. Dans le film on a aussi l'histoire de Nyangira. Qu'est-ce que ça veut dire pour un adopté du Rwanda qui est un enfant Tutsi de voir à la télévision les images du génocide, comment est-ce que sa famille a été préparée à l'accompagner vis-à-vis de cette histoire-là, comment est-ce que lui a été accompagné par les institutions. Et moi, ce sont vraiment ces questions-là que je pose. Souvent, on me dit que voilà, l'adoption, ça a évolué, etc. Mais il reste toute une partie de la population aujourd'hui, dont je fais partie, des gens qui ont entre 20 et 60 ans, qui ont été adoptés et pour lesquels on offre très peu de solutions de continuité, qu'il s'agisse de l'accès à nos origines, à nos antécédents médicaux ou d'un suivi psychologique quand on fait par exemple partie d'histoires traumatiques comme celle du génocide des Tutsis au Rwanda.
Aujourd'hui, la situation elle a changé, vous l'évoquez il y a un instant, la situation est différente, elle est réglée, ces cas-là, ils ont disparu.
Alors, réglée, je ne pense pas.
L'adoption internationale, en tout cas, elle est en baisse fortement, notamment en Suisse.
Oui, bah, vous voyez, comme tous les phénomènes, hein, plus ils sont régulés internationalement, et effectivement, plus ils baissent. L'adoption internationale, ça a d'abord été des démarches privées, et donc au tout départ, effectivement, ça a été des pratiques qui étaient souvent dénuées d'éthique, ou en tout cas absolument pas encadrées, ni dans les pays de départ, ni dans les pays d'accueil, et ni par des organisations supranationales. Et donc, effectivement, ça a donné lieu à énormément de dérives, et voire même des trafics d'enfants, etc. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces cas-là, puisque bon, en 93, il y a eu la Convention de La Haye, et puis le temps qu'elle soit, voilà, elle est ratifiée par la France en 98, le temps que les dispositions relatives à cette convention soient mises en place, on voit qu'en France, comme dans plein d'autres pays, l'adoption internationale effectivement commence à baisser à partir de 2010, donc effectivement en lien avec l'encadrement légal. Donc ça a réglé, ou en tout cas ça a permis, je dirais, de mettre un frein aux dérives, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de cet encadrement légal quand elles ont été adoptées?
Merci beaucoup, Amandine Gay. On rappelle que ce film, hein, Une histoire à soi, est à voir dès mardi un peu partout en Suisse, roman à l'enseigne de Cinédoc, le rendez-vous documentaire des cinémas régionaux. Vous restez bien entendu avec nous. On va ouvrir le débat sur la situation en Suisse avec vous, Catherine Jean-Benoît. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc, je suis psychologue.
Exactement. Je vais vous présenter, oui, Catherine Jean-Baudouin. Vous êtes psychologue, j'allais le dire, psychothérapeute également au sein de l'association Espace A. C'est une association qui accompagne les personnes, parents ou enfants concernés par l'adoption. Et bonsoir à vous, Manon Chic.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'enfance et de la jeunesse en charge de l'adoption dans le canton de Vaud. Et bonsoir à vous, Dida Guigan.
Bonsoir.
Vous êtes chanteuse, fondatrice de l'association Born in Lebanon, née au Liban durant la guerre civile. Vous avez été adoptée en Suisse en 1984. Alors, première question à vous, Catherine Jean-Benoît. On voit dans le film d'Amandine Gay des points de vue critiques sur l'adoption internationale. Tout n'est pas réglé, on le comprend bien. Quelle analyse vous faites, vous, de ces destins, de ces situations? Vous qui côtoyez des enfants, des parents, c'est des situations similaires que vous accompagnez?
Oui, alors c'est vrai que ce documentaire, je remercie Amandine Gay parce qu'il est extrêmement riche à la fois pour les professionnels, également pour les parents adoptants, pour les jeunes adultes et les enfants ou adolescents qui vont arriver par adoption. C'est des témoignages très forts qui montrent à la fois aussi, je trouve, l'évolution dans nos représentations de ce que c'est l'adoption entre les années 50 et aujourd'hui. Une évolution qui a été quand même très importante, où initialement, d'ailleurs dans le documentaire, ça commence avec la fondation Deugville à Paris, où on s'aperçoit effectivement que l'enfant d'ailleurs est considéré surtout comme un objet qui va pouvoir être confié à une élite à qui on ne parle pas, à qui on n'explique rien, et on est passé vraiment du secret à la transparence. C'est-à-dire qu'initialement, on conseillait fortement aux parents par adoption de ne rien révéler, ce qui fait qu'il y a des personnes d'une cinquantaine d'années aujourd'hui qui découvrent, suite au décès de leurs parents adoptifs, qu'ils ont été adoptés.
Et cette transparence, elle règle ces situations de déracinement, ce sentiment-là? Est-ce que ça suffit?
Alors non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le déracinement, comme le dit le jeune là qu'on voit au tout début, le premier déracinement, déraciner, c'est arracher quelqu'un à sa terre natale. Mais la première racine qui relie toute personne à l'humanité, elle est faite du lien à la personne qui l'a conçue ou personnes qui l'ont conçue. C'est pourquoi la quête des origines qui vient relier la quête identitaire, c'est de savoir de qui on est né. Et c'est vrai que C'est extrêmement important de parler à l'enfant. L'enfant, lui, il sait qu'il a été abandonné. Il le sait intimement, émotionnellement, dans son corps. Il y a des traces. Donc ça, c'est une évolution très importante de pouvoir qu'il soit préparé. C'est une évolution aussi très importante de la façon dont aujourd'hui on accompagne les candidats à l'adoption. En Suisse, ils sont accompagnés, alors en tout cas pour Genève, Madame Schick nous dira pour le canton de Vaud, mais pour Genève, ils sont accompagnés entre autres par Espace A avec une formation d'une vingtaine d'heures où il y a la question de l'éthique qui est abordé avec une juriste. Il y a la question de l'attachement, la question de la résilience, la question de où sont les limites des parents aussi, hein, pas aller au-delà de leurs limites. Et puis, il est déjà abordé au moment de la préparation des candidats la question de comment accompagner son enfant quand il y aura cette quête des origines, parce qu'à un moment donné, elle arrive, parce que l'adoption ne prépare pas...
dans un instant de
la douleur de l'abandon.
Les origines de ce qu'elle peut amener aussi à ces enfants-là. Manon Schick, quelle est la situation aujourd'hui? Je l'ai dit, hein, l'adoption internationale, elle est en forte baisse. Il y a combien de cas par an dans le canton de Vaud, vous savez?
Alors, dans le canton de Vaud, l'année dernière, il y a eu 3 enfants qui sont arrivés en adoption internationale. Il y en avait encore presque 50 en 2010. Et effectivement, comme l'a dit Amandine Gay, il y a eu une forte diminution qui est vraiment liée à je dirais, deux phénomènes principaux en termes de convention. C'est la convention des droits de l'enfant, parce qu'effectivement, à un moment donné, l'enfant est devenu un sujet et a été doté de droits. Et donc, quand on se penche sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est autre chose que de se pencher sur le désir d'une famille d'avoir un enfant. Et tout d'un coup, on a basculé dans un autre discours par rapport à la question de l'adoption, qui est-ce que c'est quelque chose qui correspond à l'intérêt de l'enfant d'avoir un accueil dans une famille, ou est-ce que c'est le désir d'une famille d'avoir un enfant? Et le désir d'une famille d'avoir un enfant n'est pas un droit. Donc voilà, donc là, je pense que il y a cette première convention, évidemment, et puis bien sûr la convention de La Haye qui est alors spécifiquement sur l'adoption et là qui très clairement privilégie l'adoption nationale, donc ça veut dire que normalement pour accéder à une adoption internationale, les pistes nationales doivent avoir été épuisées. Donc un enfant, par exemple, prenons la Thaïlande qui est l'un des pays principaux de provenance des enfants qui arrivent en Suisse encore aujourd'hui en adoption. Eh bien, ça veut dire qu'un enfant thaïlandais, il y aura d'abord une recherche, est-ce qu'il peut être adopté par une famille en Thaïlande? Et puis seulement s'il n'y a pas de possibilité, eh bien, il pourra être placé en adoption internationale. Et donc, ça a fortement limité le nombre d'arrivées d'enfants en Suisse. Et effectivement, il y a en plus aujourd'hui des phénomènes, je dirais, qui sont liés aux circonstances des pays. Hein. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, quand il y a un pays en guerre, eh bien, il va y avoir, par exemple, un moratoire, ou bien quand un pays n'est tout simplement plus capable d'assurer les contrôles qui doivent être faits, qu'un enfant a effectivement bel et bien cette identité, qu'il peut être placé en adoption. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec Haïti, qui a connu vraiment à la fois des troubles politiques et des tremblements de terre terribles. Toute l'administration est quasiment hors de fonctionner. Et donc, en fait, dans un cas comme celui-là, eh bien, il y a une décision de moratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enfants haïtiens qui peut être actuellement accueillis en Suisse. Donc, tous ces phénomènes ont contribué petit à petit à faire que l'adoption internationale a fortement diminué, et puis peut-être un jour qu'elle disparaîtra. Et puis, il faut encore juste dire que, ben, évidemment, que les progrès qui ont été faits en termes de médecine aussi, de procréation, ont bien sûr aussi contribué à cette disparition.
Dita Guigan, vous retrouvez un petit peu dans ce qui a été dit par Mathéus au début du film, dans ce déracinement?
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'emploierais le mot déracinement. Je l'aurais peut-être employé quand j'étais un peu plus jeune. Mais effectivement, il y a quelque chose par rapport au fait qu'on appartient ou qu'on a appartenu à un moment donné à une culture, à un pays, à une histoire, et ça se ressent vraiment au niveau physique. Moi, je me souviens très très bien la première fois que je suis retournée au Liban. Il s'est passé des choses dans mon corps que je ne comprenais pas. Et donc, c'est une évidence que des racinements, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un fort manque à un moment donné, ou en tout cas, un questionnement... très clair sur, mais en fait, d'où est-ce que mon corps vient. Et là, j'insiste vraiment sur la question du corps et puis peut-être du rapport organique qu'on a par rapport à notre histoire d'adoption. Mais après, évidemment, il y a aussi tout le côté psychologique que vous avez évoqué. Je dirais aussi le rapport à la vérité qui a été très fort chez moi. Je comprenais que le puzzle ne se construisait pas avec ce qu'on me racontait. Donc voilà, il y a plusieurs éléments comme ça qui fait que oui.
Donc la transparence dont parlait Catherine Jean-Benoît, c'est quelque chose qui est positif selon vous ?
Oui, alors c'est...
Évidemment.
Évidemment, mais ça devrait l'être depuis le départ et ça l'a pas été même avant nous, même pour nos mères biologiques. Donc là, c'est clair qu'on est en ce moment en train de travailler au démantèlement des illusions et des mythes. Et c'est très bien. Et il y a beaucoup de travail.
Il y a beaucoup de travail. Est-ce que retrouver les origines, ça fait partie des solutions ? Amandine Gay, on l'a évoqué avec Catherine Jean-Benoît, est-ce que ces enfants qui retrouvent la trace de leur passé, une forme de transparence, ça les aide beaucoup ? C'est la clé principale peut-être ?
Alors moi, j'essaie toujours d'éviter d'avoir des conclusions, parce que je pense que ne serait-ce que dans le film, on a essayé de donner 5 portraits, parce que justement les solutions ou les réponses, elles sont toujours très diverses, dépendamment des personnes et aussi dépendamment des âges. C'est vrai que c'était important pour moi dans le film, les gens ont entre 20 et 53 ans, et ce que disait Dida, à qui je passe le bonjour, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, donc je la vois à l'écran, ça me fait plaisir. Et donc je pense qu'une des choses qui est importante, c'est aussi de voir que nos situations peuvent évoluer. Et donc moi, j'ai essayé de montrer ça dans le film. On n'a pas forcément le même intérêt, par exemple, pour ses origines quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, quand on est jeune parent ou qu'on a la perspective de devenir parent. Et dans le film, on a même une personne qui pourrait être bientôt grand-mère. Et je pense que voilà, tout ça, c'est important de montrer aussi qu'on peut faire les choses à notre rythme. Souvent, dans le discours autour de l'adoption, en tout cas, moi, j'ai grandi en ayant l'impression qu'on me donnait beaucoup d'injonctions, de ce que j'aurais dû ressentir à certains moments ou de ce que j'aurais dû faire. Et moi, j'essaie plutôt de donner différentes images, différents parcours pour que les personnes se disent... Vous voyez, par exemple, dans le film, on a Céline. Et Céline, elle n'avait pas particulièrement d'intérêt pour ses origines jusqu'à ce que là, encore une fois, ce soit les infos qui arrivent dans sa vie. Quand elle entend parler du trafic d'enfants au Sri Lanka, elle commence à faire des recherches et elle se rend compte qu'elle en fait peut-être partie. Et pour moi, c'était aussi important de montrer ça. C'est pas quelque chose qui avait mené sa vie, la quête des origines, mais à un moment donné, ça rentre dans sa vie. Et ça, je pense que, effectivement, il y a cet enjeu de défaire les mythes, etc. Et puis il y a un autre enjeu qui est aussi celui de la réparation, puisqu'il y a beaucoup de personnes à qui qui ont besoin de justice, que ce soit les adoptés ou les premières familles. Et cette question, elle va se poser de plus en plus.
Manon Chic, vous qui gérez justement l'adoption dans le canton de Vaud, ce besoin de réparation, vous le voyez passer dans vos bureaux ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a un certain nombre de jeunes qui sont aujourd'hui devenus adultes qui souhaitent effectivement faire ces recherches d'origine. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, en Suisse, ce mouvement autour de cette recherche d'origine par rapport au Sri Lanka, comme c'est le cas en France, comme l'a souligné Amandine Gay. Il y a vraiment maintenant des regrets qui ont été présentés par le Conseil fédéral. Et les cantons... sont maintenant en train de mettre sur pied, il y a un groupe de travail, ils sont en train de mettre sur pied vraiment un mode commun de gestion, de comment aider les personnes qui ont été adoptées au Sri Lanka. On est en train de parler effectivement de plusieurs centaines d'enfants qui ont été adoptés durant les années 80 et 90, qui très clairement ont probablement fait l'objet d'un trafic, qui probablement malheureusement ne retrouveront jamais la personne qui les a mis au monde. Et ça veut dire que c'est évidemment tout un travail d'accompagnement, là aussi effectivement avec des psychologues, parce que c'est quelque chose qui est probablement très difficile à vivre. C'est-à-dire qu'au moment où on lance une recherche d'origine, on a bien sûr aussi là aussi le fantasme peut-être de retrouver quelqu'un, et puis que cette personne ait envie de recréer une histoire. Et puis on se rend compte qu'en fait, très souvent, ces recherches n'aboutissent pas.
Dida Guigan, comment réparer le passé ?
Comment réparer le passé ? En mettant sur pied des écoutes complémentaires et professionnelles pour accueillir les souffrances du passé. Je dirais que c'est vraiment ça. Et ça demande des nouveaux postes de travail, une professionnalisation du domaine de l'adoption internationale, pouvoir s'informer sur les conséquences des adoptions irrégulières sur la vie des personnes adoptées. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est très bien parce que voilà, il y a des associations comme Espace A qui eux sont professionnels sur ces questions-là, mais en fait, c'est encore un peu les seuls. Et enfin, ça c'est en tout cas ce que je demande aussi à travers l'association Born in Lebanon depuis plusieurs années, c'est que il y ait une collaboration en fait entre les différents acteurs de l'adoption. Que, voilà, pour que autant au canton qu'au niveau privé associatif et au niveau des autorités, on puisse mettre un peu carte sur table. Enfin, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, parce que je fais aussi partie de ce groupe de travail. Mmh. Et de pouvoir trouver des solutions communes pour toutes les nationalités, pas seulement le Sri Lanka, pas seulement celles qui sont sous le feu de la rampe.
Catherine Jean-Benoît, parlons un petit peu des parents. Il y a parfois un désir abusif d'enfants dans ce genre d'histoire.
Pour les parents qui sont candidats à l'adoption, alors, bon, déjà, la démarche est longue. Il y a un cheminement, il y a tout un travail avec les travailleurs de l'État, déjà, qui délivrent l'agrément. Et puis après, il y a tout le travail d'accompagnement, voilà, qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Et peut-être qu'ils ne seront même jamais parents. Mais effectivement, je rejoins tout à fait Manon Chic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. L'adoption, c'est vraiment une mesure de protection de l'enfance. Et la question du désir ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des parents comme les autres. Il faut vraiment prendre en compte que c'est une parentalité particulière avec un devoir de se former, de se remettre en question. Voilà. Alors, je voulais juste revenir ce qu'Amandine Gay, elle disait sur la question, effectivement, ce qui est très important, c'est de respecter le rythme de chacun. Et on voit bien, même les jeunes enfants, ils ont tout un imaginaire autour de la question de leurs origines. Et ça se travaille bien avant qu'ils passent concrètement à demander à des professionnels vers l'enfance, l'adolescence. Ça va être du pire au meilleur, être le fruit d'un viol ou être le fruit d'un grand amour impossible et on va venir les rechercher. Enfin, il y a tout un imaginaire qui se développe et qui est extrêmement important parce que tout être humain a besoin de mettre du sens sur ses origines.
C'est quelque chose qui est parfois sous-estimé par les parents, ça, c'est dans leur façon de voir l'adoption internationale, peut-être d'imaginer qu'ils sauvent un enfant du tiers-monde.
Alors, ça, aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on a plus cette parentalité-là, parce qu'ils sont suffisamment accompagnés, formés, et on leur explique. Et voilà. Après, ce qui reste quand même compliqué, c'est qu'entre le savoir intellectuel, quand les parents sont accompagnés et formés, et puis après, quand ils vivent effectivement et qu'ils sont en lien avec l'enfant, ce que je continue d'observer, même pour des enfants qui ont peut-être 6, 6 7 ans seulement aujourd'hui, des parents qui viennent consulter parce qu'ils sont extrêmement inquiets de perdre ce lien quand l'enfant commence à évoquer et sa vie d'avant et tout ça. Donc, voilà, c'est comment on peut articuler quand même l'ici et l'ailleurs sans inquiétude, parce que chez toutes les personnes adoptées, il y a quand même 4 questions qui reviennent, il me semble assez universelles. C'est la première, c'est à qui je ressemble. Il y a vraiment un besoin du côté de l'image. Pourquoi moi? Est-ce que j'étais pas suffisamment aimable pour que ça m'arrive? Quelle vie j'aurais eue si j'étais restée dans mon pays d'origine? Et est-ce que j'ai compté pour quelqu'un avant? Et les parents par adoption, voilà, ils ont quand même toujours un peu cette inquiétude, alors que vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut différencier, c'est-à-dire que la personne qui a été adoptée, quand elle fait une quête des origines, une quête identitaire absolument essentielle pour elle, elle ne remet pas en question la filiation symbolique qui est « je suis le fils de » et « la fille de », mais elle vient chercher de qui je suis née.
Merci beaucoup à toutes les 4. Amandine Gay, réalisatrice de Une histoire à soi, qui est à voir sur les films, les cinémas romans, pardon. Catherine Jean-Benoît, vous êtes psychologue. Manon Chic, directrice générale de l'enfance et de la jeunesse dans le canton de Vaud. Et Dida Guigan, vous êtes chanteuse, vous êtes fondatrice de l'association Born in Lebanon. Bonne soirée à toutes les 4.
Merci.
Merci. Merci pour l'invitation.